Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, le prologue de Jean que nous venons d'entendre, vous le savez, est le centre de la foi chrétienne. C'est pourquoi, à l'exception de cette messe-ci, nous l'entendons à la fin de toutes les messes. Nous n'avons pas besoin de l'entendre puisque nous venons de l'entendre aujourd'hui. C'est dire que nous voulons sans cesse retourner au centre, au plein centre de notre foi, au début de notre salut, à ce sommet de l'histoire que fut l'incarnation de notre Seigneur. Si les évangélistes Saint-Luc, Saint-Marc et Saint-Matthieu racontent quelque chose, l'un ou l'autre, des débuts de la généalogie du Christ, des débuts de sa vie sur terre, Jean, lui que l'on configure à l'aigle dans la représentation symbolique, va immédiatement de la hauteur des cieux nous révéler l'intime de ce qu'est cette aventure divine qui se conjoint à l'aventure humaine, l'incarnation. Je vous propose de vous dire un mot du Verbe divin, puis, dans un deuxième temps, de son incarnation. Le Verbe divin, le Verbe unique de Dieu, c'est le Christ. Il est, il était et il sera, il est en dehors de tout temps, il est celui qui est. Il est tout comme Moïse s'est révélé dans l'Exode, tout comme le Christ, le Dieu s'est révélé dans l'Exode à Moïse, au buisson ardent, « Je suis l'être même, je suis celui qui est, ego sum qui sum, ego omni on, dites comme vous voulez, mais on ne peut pas le dire en fait, ce qu'est l'être en lui-même, c'est Dieu. » Or le Christ, le Verbe incarné de Dieu, la parole proférée par le Père, « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et il est Fils. » Eh bien, c'est lui qui est venu dans le monde. Vous le savez, c'est la raison de sa condamnation. Voilà pourquoi à Saint-Roch, mieux qu'à tout endroit du monde, nous pouvons contempler, si vous vous mettez bien sûr dans l'axe de l'enfant Jésus, vous contemplez à la fois le Christ venu dans la crèche et le Christ ayant offert sa mort, sa vie sur la croix, à travers la mort. Ici, nous le savons, de la crèche au crucifiement, c'est un seul et même mystère. Oui, le Seigneur a été mis à mort parce qu'il est Dieu, et non pas pour toute autre raison, politique, circonstancielle, sociologique, que sais-je. Il suffit de lire l'Évangile, il ne cesse de dire qu'il est lui-même Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Fils du Père, qu'il en partage la nature, la substance. Bref, c'est la raison de sa condamnation, c'est aussi la raison de la venue dans ce monde, qu'il puisse illuminer ce que nous sommes. Ce Verbe est logos, si nous le lisons en grec, c'est-à-dire qu'il n'est pas une parole informe, c'est l'inverse, c'est lui qui est la forme de ce monde. Nous avons été créés en lui dès avant le commencement du monde. Aussi était-il convenant qu'il s'incarnât en un homme. Voilà cette vie que nous recevons de cette incarnation, ce partage de la vie divine qui est un mouvement d'être perpétuel, un don incessant. En venant dans le monde, le Seigneur introduit la chair, introduit ce monde à l'intérieur de sa propre gloire, à l'intérieur de cet échange perpétuel du Père au Fils à l'Esprit, de cet échange d'amour, car nous le savons, Dieu est amour, ce qu'il signifie qu'il est don, qu'il est échange, Dieu est un, mais il n'est pas un monôme solitaire. Dieu est un partage perpétuel qui va changer la face du monde en s'y incarnant, c'est-à-dire qu'il va introduire ce monde, ou le réintroduire plus exactement en lui, tel qu'il l'aurait toujours dû être. Voilà ce mouvement perpétuel dans lequel nous sommes introduits par la répétition cyclique de la liturgie année après année, qui essaye de nous faire comprendre qu'en dehors de notre petite linéarité, du jour de notre naissance au jour de notre mort, et jamais nous n'allons en arrière, eh bien, nous faire comprendre que ce mouvement qui semble borné dans le temps, limité dans l'espace, en fait, s'introduit dans un mouvement divin, le cycle de la liturgie nous introduit dans le mouvement de Dieu. « Oui, dit saint Jean, nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il détient d'un Fils unique. Mais me direz-vous, et vous le savez, on nous l'oppose, est-ce vraiment ça, la gloire, de se faire si petit et de mourir sur une croix ? Eh bien oui. Bien sûr, le diable s'y est trompé, le malin, tout malin qu'il est, n'a pas tout de suite compris. La puissance de Dieu n'est pas une puissance de destruction. La puissance de Dieu, faible puissance que celle de détruire, petite limitation d'être, qui en général est la nôtre, la puissance de Dieu, c'est la création, c'est d'être, c'est de faire participer à son être, c'est de communiquer l'être, c'est de répandre son être, c'est-à-dire ce bien qu'il est lui-même. La puissance de Dieu peut donc s'exprimer dans cet enfant si faible et si insignifiant, pas plus grand, pas plus extraordinaire à vue humaine que tout enfant du monde, et pourtant, dans ce petit enfant gît toute la puissance de Dieu, l'incommensurabilité de sa puissance gît là, parce que c'est la vie et qu'il se donne à nous à travers cette vie. Cette puissance de Dieu qui est sans cesse créatrice va aller jusqu'à la croix. Sur la croix, j'imagine que le diable a dû un instant se réjouir qu'enfin son ennemi, parce que c'est lui en fait l'ennemi de la nature humaine, ce démon, serait enfin vaincu. Et très certainement, de la jouissance qui était la sienne du mal, il a dû amèrement, non pas tomber à genoux car il ne le peut plus, les damnés ne peuvent plus se convertir, mais il a dû éprouver au moment même, à l'instant même de la mort du Christ, l'amère vérité qui pourtant était devant ses yeux depuis le début. Si le Seigneur s'est fait pauvre, s'il a renoncé à sa condition divine et s'il s'est fait homme, c'était pour emmener dans sa chair, dans la nature humaine qu'il s'est uni, qu'il s'est conjoint, c'était pour nous emmener, nous, c'est-à-dire pour y emmener jusqu'à la mort, le fruit du péché, c'était pour l'emmener dans la gloire, faire mourir la mort. Voilà ce que nous méditons dans l'incarnation, ce mouvement divin qui se conjoint l'humanité perdue pour la ramener à la vie. Nous n'avons pas fini de le vivre, c'est ça l'incarnation. Oui, s'il est venu, il n'y a pas d'autre raison, c'est pour nous sauver. Alors il y en a d'autres peut-être, mais la raison essentielle, c'est nous sauver. D'autres théologiens nous diront pour nous diviniser, mais c'est une seule et même chose. Le plan divin de Dieu, dès le début du monde, était dans l'extension de ce bien, dans ce bien qui s'est répandu en nous créant, était de nous adjoindre à lui. Eh bien, le péché qui avait brisé, en quelque sorte, le chemin du ciel, qui avait laissé les portes de notre paradis se refermer, notre avenir s'assombrir, eh bien, ces portes, qui sont la mort, sont brisées dorénavant. En contemplant l'enfant qui vient de naître, nous, nous savons déjà qu'en ayant passé tous les espaces et les temps, il ouvre cette porte spatio-temporelle qui nous fera accéder vers le ciel. Cet espace spatio-temporel, c'est notre propre vie qui maintenant, jointe à l'Eucharistie du Seigneur qui se donne à nous dans la réalité de sa présence substantielle, nous fait déjà entrer vers le ciel. Oui, à la messe, le ciel se conjoint à la terre, c'est le ciel qui s'ouvre et qui se répand sur la terre, afin, en venant au pied de cette balustrade, que vous puissiez, au banc de communion, vous pencher au bord du ciel et vous unir à votre gloire future. De quoi nous sauve-t-il? De nous-mêmes, en quelque sorte. C'est pourquoi il nous faut nous arracher pour coopérer à cette grâce. Il faut nous arracher à nous-mêmes, nous arracher à notre sommeil pour venir à la messe, nous arracher à nos activités quotidiennes. Voilà comment Dieu nous unit. Oui, Dieu aurait pu nous sauver du haut du ciel, c'est ce que pensent certains de nos frères protestants. Il aurait pu nous sauver du haut du ciel en nous lassant sa grâce pour nous couvrir de sa vertu. Ce n'est pas ainsi qu'il est venu. Il est descendu à l'intime de la nature humaine, et cette grâce n'agit pas comme une couverture dorée que l'on mettrait sur un pot pourri. Non, cette grâce pénètre la pourriture de mon âme, la pourriture de ma chair, pour la transcender et la ramener jusqu'à la pleine lumière de Dieu. Voilà cette gloire, c'est l'homme vivant, dira saint Irénée, cette gloire qui nous est promise, cette coopération à la grâce qui entend que moi-même je puisse agir avec Dieu. Oui, dans la prière et tout spécialement dans la liturgie, nous agissons dans le monde avec Dieu, nous nous unissons à l'union divine, à l'action divine qui sauve le monde. Ce faisant, nous allons répandre dans notre âme, nous allons laisser se répandre dans notre âme les bienfaits de sa mort et de sa résurrection, les bienfaits de son incarnation qui viennent jusqu'à moi. Mais ce n'est pas tout, mes bien chers frères. À la fin de cette messe, vous allez retourner dans ce monde qui ne connaît pas Dieu et qui n'en veut pas. Il n'en veut pas car il a peur de se refaire tout petit, de se mettre à l'écoute de la vie, de se mettre à l'écoute de celui qui est venu sauver le monde en lui révélant qu'il n'était rien et qu'il est tout. Alors il vous appartient maintenant, en sortant de cette messe, après avoir communié et être parti en mission dans le monde, l'annoncer. Vous l'annoncerez déjà aujourd'hui, demain, toute cette semaine, ce temps de la nativité, en souhaitant, et c'est pas plus compliqué que ça, un joyeux Noël à ceux que vous rencontrerez. Vous le savez, ce monde qui ne veut pas voir Dieu, qui croit son salut éternel dans la matière et dans sa propre subsistance, se trompe. Il se trompe tout en sachant qu'il se trompe, ce qui est encore plus grave, et c'est pourquoi il rejette toute trace de Dieu. Serait-ce que l'établissement d'une crèche, serait-ce que des mots tout simples comme « Joyeux Noël » mettraient en péril l'édifice de ce monde pourri, établi sur sa propre matière? Eh bien oui. Mais voilà, nous avons à rassurer le monde si nous voulons ébranler l'ordre pervers de ce monde, ce n'est pas pour le détruire car nous participons de la puissance de Dieu, c'est pour l'exaucer et le ramener à la vraie vie. Vous aurez, comme moi, l'occasion de croiser de nombreuses personnes vous souhaitant de joyeuses fêtes. Eh bien, vous aurez loisir, outre de leur répondre « Joyeux Noël », peut-être non sans sarcasme ou peut-être sans humour, car il nous faut toujours employer l'humour. Demander, c'est ce que j'ai fait récemment à quelqu'un qui me souhaitait de très joyeuses fêtes, lui demander « Mais de quelle fête s'agit-il » pour que savoir ce qu'il était en mesure de me souhaiter. Alors la personne a balbutié « Bah, les fêtes de fin d'année !» J'ai dit « Ah, les fêtes de fin d'année ! Et que se passe-t-il alors à la fin d'année ? Je ne suis pas de chez vous ?» Et voilà, jusqu'à lui faire avouer que, évidemment, c'est Noël. Ce n'est pas de passer d'un jour à l'autre, ce n'est pas parce que c'est la fin de l'hiver et le début d'autre chose, ce n'est pas... Bien sûr, tout cela ne nous est pas indifférent et nous voulons tout sanctifier. Bien entendu, tout cela est important de notre vie. Mais la véritable joie, ce qui vous a mené jusqu'ici, la fidélité qui est la nôtre, n'est pas de savoir que je vis tout seul, parce que si tel était le cas, il ne faudrait surtout pas y penser. Sinon, je devrais immanquablement penser que je vais mourir tout seul. Non, la véritable joie, c'est de savoir que je vis avec le Christ, lui qui vit éternellement, qui est venu dans le monde, que je reçois ici maintenant. Cette incarnation, mes bien chers frères, elle se poursuit jusqu'à vous, elle se poursuit par vous, elle se poursuit en vous. Soyez les témoins fidèles de cette joie immense que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Ainsi soit-il.